réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux.
Comment 6 heures?
Bonjour tout le monde, merci de vous réveiller en ce mercredi 18 mai avec Un autre jour est possible. Toute une semaine consacrée au cinéma français, vu par un jeune réalisateur fraîchement diplômé de la FEMIS, Christophe Nanga-Oli. Je vous rappelle au passage que le week-end dernier à Cannes, justement, fut remis le prix France Culture Cinéma des étudiants à Toto et ses sœurs d'Alexandre Nanot. Comment les jeunes perpétuent cette vieille tradition française qu'est la critique d'art et plus précisément la critique de cinéma? Et ben voilà, c'est notre série de la semaine en donnant la parole à un des dignes représentants de cette nouvelle génération, Christophe Nanga-Oli, dans un instant avec nous pour le 3e épisode. Après avoir parlé de la famille française à travers les films d'Arnaud Desplechin et la guerre d'Algérie et ses échos dans la France d'aujourd'hui avec la filmographie de Dominique Cabrera, aujourd'hui nous parlerons de la sexualité vue et représentée par Céline Sciamma. Céline Sciamma qui sera mon invitée en deuxième partie. Donc une semaine spéciale cinéma français à l'occasion du Festival de Cannes. Un autre jour est possible avec Anaïs Isbert, Pascaline Bonnet, Hubert Jacaz, Thomas Duterre. Moteur, ça tourne.
Portrait de la France par 5 cinéastes contemporains, une série avec Christophe Nanga-Oli.
Bonjour Christophe Nanga-Oli.
Bonjour.
Après les nouvelles structures familiales à travers la filmographie d'Arnaud Desplechin, après l'héritage de l'histoire coloniale à travers Dominique Cabrera et ses films, vous continuez donc ce portrait de la France d'aujourd'hui à travers 5 filmographies, à travers donc 5 auteurs contemporains. Et aujourd'hui, vous avez choisi Céline Sciamma, qui est plus jeune que Dominique Cabrera et Arnaud Desplechin, puisqu'elle est née en 1978. Elle est tout à la fois scénariste et réalisatrice. Le dernier film qu'elle a réalisé, Bande de filles, a été montré l'année dernière au Festival de Cannes, montré d'ailleurs très remarqué. Et à travers les films de Céline Sciamma, vous voulez parler de l'émancipation par la sexualité. Pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que je crois que le cinéma de Céline Sciamma nous parle de la sexualité, nous parle de la sexualité présente dans l'adolescence, nous parle de comment la sexualité rejoue les codes des garçons et des filles, ce que c'est qu'être un garçon ou ce qu'est être une fille dans l'enfance, et comment la sexualité peut être une arme pour s'émanciper quand on est une jeune fille issue d'une cité de banlieue aujourd'hui.
Alors pour commencer, c'était La naissance des pieuvres en 2011. Pourquoi ce premier film est très important pour vous ?
La naissance des pieuvres, c'est un très beau film. C'est déjà un très beau premier film. C'est un film qui se passe dans le milieu des nageuses synchronisées. On va suivre les premiers émois amoureux de Marie, une jeune adolescente, ou du moins une adolescente, qui va tomber en émoi devant une nageuse synchronisée très très belle, qui n'est pas nommée dans le film. C'est juste un objet de désir. Et autour de ces deux personnages, il y a un troisième personnage, peut-être moins important, c'est la meilleure amie de Marie, qui est la fille qu'on voit pas, qui fait aussi de la natation synchronisée, qui est une fille au physique un peu plus ingrat, mais c'est aussi une fille que les garçons peuvent aller voir quand ils n'arrivent pas à obtenir ce qu'ils veulent auprès des filles qu'ils désirent.
Ça,
autour de ces trois personnages-là, où nous est raconté ce que pourrait être la naissance des désirs, la naissance d'une sexualité dans l'adolescence. On a comme ça trois stéréotypes très clairs d'adolescente. La fille qui découvre son désir et qui veut l'atteindre et qui se démène pour atteindre ce désir, qui développe des stratégies. On a la bimbo, objet de fantasme, tout aussi bien des filles et des garçons, mais bizarrement qui, elle, n'a pas de sexualité, qui est juste un objet. Et puis on a une troisième fille, tout en chair, qui a un corps et qui a une sexualité, qui au final a une sexualité alors qu'elle croit qu'elle n'en mérite pas.
C'était l'équipe des Poussines.
Et ce qui est très beau dans ce film, c'est qu'à partir de ces trois personnages-là et de cette situation de la natation synchronisée, se déploie un film très physique, avec énormément de présence des corps. Marie va découvrir le corps de cette fille qu'elle désire en assistant à un entraînement à son premier entraînement de natation synchronisée. C'est en nageant sous l'eau qu'elle va découvrir le corps de cette jeune fille. Les scènes se déploient comme ça, toujours autour d'un enjeu physique qui nous amène à voir par le corps un désir. Et tout au long du film se déploie comme ça pour chacun des personnages, des scènes où le corps physique sera mis en jeu. Le personnage de la fille au physique ingrat se retrouvera face pour le coup à un garçon qui verra son corps nu dans le vestiaire par inadvertance. Voilà, c'est un cinéma qui montre aussi comment le corps parle, sans partir dans une volonté ostentatoire ou de montrer un corps compulsif, un corps malade. C'est juste un film qui nous montre comment tout désir se passe par le corps. Et c'est en sens que c'est un cinéma qui nous parle de la sexualité d'une manière haute. C'est pas du tout psychologique. L'enjeu n'est pas de raconter le petit traumatisme amoureux. Non, l'enjeu, c'est de montrer comment une adolescente a elle aussi un corps et comment depuis son corps à elle, elle peut désirer. Et ce qui est très beau dans ce film pour moi, c'est que malgré le fait que ce soit un film qui s'articule autour de trois personnages féminins, je retrouve des situations que j'ai pu rencontrer adolescent, l'espèce d'effroi qu'on peut ressentir face à un objet de désir, l'incapacité qu'on peut ressentir à transformer notre objet du désir en vrai sujet, c'est-à-dire en vrai alter ego. Et en ce sens-là, je trouve que c'est un film qui traite de la sexualité d'une manière que j'avais jamais vue dans le cinéma français.
Je sais pas comment tu fais. Moi, je les écrase jusqu'à ce que ce soit une bouillie dégueu.
N'importe quoi.
Ah non, non. Tous les mecs regardent quand une fille mange une banane à la cantine. Je t'assure, c'est connu.
Enfin, remarque, toi, tu t'en fous. T'es passé de l'autre côté. Tu veux dire du côté des filles qui mangent des bananes?
C'est ce qu'on raconte, c'est tout. Que tu l'as déjà fait. Et avec plein de mecs.
Ouais, c'est vrai. J'adore ça.
On retrouve cet intérêt pour la sexualité dans son second film, Tomboy, qui a créé une polémique à raison, parce que c'est un film qui redéploie nos définitions de la sexualité. Tomboy, c'est pas un film qui parle réellement de ce que c'est qu'être une petite fille. Cyn Sciamma l'a souvent dit en interview, c'est un film qui parle de ce que ça veut dire qu'être un petit garçon, l'espèce de carcan dans lequel on est mis. Donc on va suivre le personnage de Laure, qui est une petite fille, qui va arriver avec sa famille dans un nouvel appartement, dans un nouveau milieu, qui devra se faire de nouveaux amis. Laure, elle a les cheveux très courts, elle a un physique très androgyne comme ça, elle ressemble à un petit garçon. Moi, ce que j'aime dans ce film, c'est l'équation qu'il propose, c'est-à-dire de dire que dans l'enfance, la différence sexuelle n'est pas si marquée que ça. C'est-à-dire que les garçons sont aussi forts que les filles Et elle va jouer sur cette ambiguïté-là. Laure se fait appeler Michael parce qu'elle décide, dans ce nouvel endroit, on ne la connaît pas, de se faire passer pour un petit garçon. Est-ce que c'est un jeu? Est-ce que c'est un délire? Est-ce que c'est déjà pour elle une manière de marquer une identité homosexuelle qu'elle ne connaît pas réellement, qu'elle ne connaît pas encore? Finalement, on n'en sait rien. On n'en sait rien tout simplement parce que les enfants jouent et que l'enfance, c'est aussi le lieu de l'ambiguïté sexuelle.
T'es nouveau ?
Ouais, on est arrivé hier.
Tu veux pas me dire comment tu t'appelles ?
Michael. Je m'appelle Michael.
Hé ! C'est Michael, le nouveau du bâtiment C.
Pourquoi les prénoms ont une importance dans les films de Céline Sciamma, Christophe Nangaoli ?
Les prénoms ont une importance parce que, en tout cas, c'est une idée qui va revenir dans Bande de filles. Le personnage principal de Bande de filles va se choisir son prénom, elle va se faire appeler Victoire et ça va passer par un collier. Et cette idée de prénom comme d'objet transitionnel, c'est quelque chose aussi qu'on trouve dans ces différents films. L'idée du collier, c'est une idée qu'on retrouve déjà dans La naissance des pieuvres, entre un collier qui va passer de la fille au physique un peu ingrat, pour le coup à un garçon qu'elle désire, qui va le donner à cette fille, objet de tous les désirs, objet de fantasme, qui va le donner à son tour au personnage de Marie. Voilà, c'est des choses qui transitent comme ça. Et le prénom, le choix du prénom, c'est la métaphore de l'invention de son identité. C'est la métaphore de l'émancipation. C'est le moment où le personnage qui va choisir son identité va choisir aussi le sujet qu'il veut être ou le sujet qu'il veut devenir.
Faut que tu fasses ce que tu veux. Dis-le. Je fais ce que je veux. Vic. Vic comme Victoire.
Dans Bande de filles, on va suivre le parcours d'une jeune fille qui subit pas mal de difficultés dues à sa classe sociale, à son milieu. Elle habite une cité HLM en banlieue. Ce qui est intéressant dans Bande de filles, c'est que c'est un film qui traite vraiment ou qui donne quelques clés possibles pour une émancipation de jeunes femmes issues d'un quartier populaire et difficile. Ce que je veux dire par là, c'est que ce personnage-là, qui va se faire appeler, comme je l'ai dit plus tôt, Vic, comme Victoire, c'est un personnage qui va décider de sortir de sa famille. Pour sortir de sa famille, il faudra qu'elle devienne un garçon. Donc elle va s'habiller comme un garçon, elle va se bander les seins. Et elle va être acceptée par les gars de la cité. Donc pour devenir un garçon, elle devra devenir un gars. Et puis une fois qu'elle sera devenue un homme, c'est-à-dire un dealer d'herbe, de shit, de coke, en s'habillant comme un gars de cité, c'est-à-dire en se bandant les seins, en portant des tresses plaquées en arrière, en portant des suites à capuche et des pantalons larges, elle devra se battre à nouveau pour affirmer sa féminité, c'est-à-dire son désir de femme pour des hommes. Et ce qui est assez beau dans le film, c'est comment aussi Céline Sciamma nous montre comment une femme peut désirer, comment une femme peut mettre en jeu le corps de son amant. Il y a des très belles scènes dans Bande de filles où cette jeune femme noire va mettre en jeu le corps de son amant. Ça c'est une volonté de cinéaste que de montrer ça. Et il est important de montrer aussi, comme le film le montre, que une fois que on assume sa féminité quand on est une fille de banlieue, le risque c'est de se mettre au banc de la société des hommes, c'est-à-dire des gens qui ont le pouvoir.
Et là je me suis arrêtée et je vous ai regardé. Vous étiez belle. Et je me suis dit que ce moment il était parfait. Et que je n'oublierai jamais.
Je pense que l'enjeu de la sexualité dans les films de Céline Sciamma, c'est un enjeu politique à cet endroit-là, c'est-à-dire à l'endroit de l'invention de soi. Et ce qui est nouveau pour moi dans les représentations de la sexualité, c'est que Céline Sciamma, contrairement à d'autres cinéastes qui l'ont précédé, ne travaille pas la sexualité comme un enjeu de fantasme ou comme un enjeu, j'irais, à très fort potentiel fictionnel. Elle le travaille comme quelque chose de... comme une normalité, en fait. Elle le travaille comme une normalité. Et depuis cette normalité-là, elle montre comment la sexualité est en adéquation avec d'autres choses beaucoup plus importantes. Je pense notamment au pouvoir, ce qui se voit très bien dans Bande de filles, ce qui se voit aussi dans Tomboys, et qui était sous-jacent dans le premier film, où là, ce qu'il jouait plutôt, c'est comment se déploie le désir dans un milieu adolescent.
Merci Christophe Nangaoli. On se retrouve demain, on va parler du monde du travail et un nouveau regard sur le monde des travailleurs à travers les films de Samuel Collardet. À demain.
À demain.
Un autre jour est possible. Votre réveil culturel, tous les jours, de 6h à 6h30, par Toufik Hakem. Deuxième partie, l'invité du jour.
Et pour une fois, l'invité du jour a fait l'objet d'une critique durant la première partie, par Christophe Nangaoli. Alors, que pensez-vous de cette analyse du jeune réalisateur Christophe Nangaoli, le sexe que vous ne traitez pas comme quelque chose de psychologique, il n'y a pas de morale, il n'y a pas de psychologie, c'est juste un enjeu de pouvoir, c'est quelque chose de politique.
Oui, la façon dont il... Enfin, quand il y a l'intitulé comme ça, cinéaste de la sexualité, j'imagine comme ça folkloriquement qu'on peut... Enfin, c'est pas forcément un intitulé que je m'attribuerais. Une fois que je l'ai écouté, je souscris à son analyse, quoi. Quand on pense sexualité, on pense effectivement fantasmatique, on pense même à la représentation du sexe. Or, il y a très très peu de... Il n'y a même pas de sexe dans mes films. Enfin, à peine de l'érotisme, mais toujours quelque chose qui se passe hors champ. Donc, c'est la sexualité comme représentation, plutôt que la représentation de la sexualité. Et voilà, mais c'est toujours très émouvant de s'entendre analyser et très, très difficile de réagir en même temps parce que c'est sa lecture et que je le remercie déjà d'en avoir une.
Mmh. Mais est-ce que pour vous, quand il dit pour moi le cinéma de Céline Sciamma c'est l'émancipation par la sexualité, mmh. Est-ce que c'est vous voyez ce qu'il veut dire? Nous, ça nous a beaucoup étonné, mais on était très curieux d'entendre ces arguments.
Ouais, je le trouve convaincant. Après, il se trouve que oui, c'est un cinéma de l'émancipation et de la sexualité qui s'exprime sur différents terrains dans les différents films. Et d'ailleurs, il l'explique assez bien parce qu'il y a quelque chose de l'ordre du surgissement de la sexualité dans le premier film. Donc dans quelque chose qui passe comme ça de à peine du ventre à la tête, quoi. Dans Tomboy, c'est la sexualité comme terrain de jeu, donc, mmh. Et dans Bande de filles, quelque chose qui est de l'ordre de quelque chose de plus politique, effectivement, et de la sexualité comme terrain de lutte et comme un film plus ancré dans le contemporain aussi. Mais c'est aussi l'émancipation par l'amitié. Mes trois films, c'est aussi, c'est, voilà, on pourrait le déplier sous d'autres angles, mais c'est courageux d'avoir choisi celui-là.
Avant de parler Ma vie de courgette, grand événement au Festival de Cannes présenté à la quinzaine des réalisateurs, où cette fois-ci vous n'êtes pas à la réalisation mais au scénario, Céline Sciamma, un dernier mot sur la critique, cette spécialité française, la critique française, est-ce que vous-même vous avez été nourri par des critiques, par des analyses de films, de cinéma, de genre cinématographique?
Moi, je lis beaucoup la critique cinématographique. Je l'ai beaucoup lue adolescente, et c'est vrai que ça a forgé aussi. Ça faisait partie de l'appétit pour le cinéma, quoi. Et le fait d'avoir une critique extrêmement vivante en France, voilà, avec des périodes plus ou moins fastes, je crois que ça participe de la qualité de la cinéphilie. Voilà, lire Danet, c'était important pour moi.
C'était important pour vous?
Ouais, bien sûr, ouais. Et ça peut le rester. D'ailleurs, c'est ce qui est beau dans la critique avec le temps, c'est que ça fait œuvre aussi. Et moi, je suis très attentive à la critique de cinéma en général, et y compris même comme voilà, ça peut même être un recueil. Les critiques d'Hervé Guibert m'intéressent aujourd'hui encore.
Céline Sciamma, est-ce qu'il y a deux Céline Sciamma, celle qui réalise ses films ou qui se donne et qui raconte quelque chose de l'ordre de l'intime ou quelque chose de très très personnel avec un engagement personnel et une autre Céline Sciamma qui se met au service d'eux quand vous signez le scénario pour André Téchiné, pour parler de son dernier film ou de Ma vie de courgette, est-ce que vous êtes dans le même état d'esprit de création?
Non, sans doute pas tout à fait. Et en même temps, c'est pas non plus aussi simple qu'une partition où il y a d'un côté on sera engagé du côté de l'intime et de l'autre non. Quoi. Ça reste quelque chose d'assez. Ça reste dans l'engagement personnel. Alors ça peut être soit dans la relation qu'on a avec le réalisateur. Par exemple, André Téchiné, c'est une écriture à la table. On est ensemble.
Là, il y a pour le film chose, quand on a 17 ans, ouais.
Quelque chose qui est de l'ordre du rapport et donc d'une intimité qui se crée aussi entre deux personnes, avec l'ambition qu'on a pour quelqu'un, avec quelqu'un.
Est-ce qu'il y avait aussi cette idée de se confronter à une autre génération?
Bien sûr, ouais. Il y a toute la richesse de ça et tous les déplacements possibles. Voilà, parce que mon scénariste, c'est une position de l'ombre, donc aussi une position de modestie, mais c'est aussi une position d'orgueil, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va amener à quelqu'un, y compris avec le confort que peut vous apporter l'ombre. Voilà, un endroit où vous pouvez prendre plus de risques aussi, ou faire prendre plus de risques. Donc c'est une position qui est assez passionnante. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de... On peut aussi s'abandonner plus, soi, dans cette position de scénariste. Et tous les films, tous les rapports, en plus, de co-scénarisation, sont assez prototypaires. Donc, on ne sait jamais non plus jusqu'où ce qu'on va donner, jusqu'où on va se déplacer. Et moi, je débute. Hein, là, enfin, je débute. Je l'ai toujours fait en marge de mon activité de réalisatrice. Mais à chaque fois, j'apprends de nouvelles choses, quoi. Sur l'animation, c'est extrêmement différent, par exemple, du travail fait avec Téchiné.
Alors, parlons de Ma vie de courgette, c'est vraiment l'événement de cette quinzaine des réalisateurs. On ressort très ému de ce film, un film qui se passe dans un orphelinat et qui ressemble à aucun autre film ou aucune autre histoire, aucun Dickens qu'on a lu. C'est très très particulier, ça s'adresse à tout le monde, c'est fin, et puis c'est très subtil parce que en réalité c'est comment parler des choses les plus graves, la mort, la drogue, l'abandon, le monde horrible des adultes, comment il est vécu, perçu par les enfants, et c'est vraiment une réussite. C'est un premier film de Claude Barrès. Est-ce que vous pouvez nous parler de lui? Vous le connaissez personnellement? C'est la même génération. Vous avez fait vous vous êtes rencontrés il y a longtemps ou...
On s'est rencontrés quand m'a été proposé l'écriture de Ma vie de courgette. Et donc ça fait quand même 3 ans, parce que en réalité les temps de production sont tellement longs dans l'animation que c'est un film que j'ai écrit il y a 3 ans.
À partir donc du livre de Gilles Paris, autobiographie d'une courgette.
Ouais. Et d'un travail d'écriture déjà entamé par Claude Barrès, qui à la fois dans un travail scénarique, mais aussi de toute la recherche de la direction artistique, les personnages. Il y a déjà même un teaser animé qui avait été fait, donc il y avait une signature comme ça déjà très forte, visuelle, vocale, quelque chose qui était de l'ordre d'un univers, mais aussi déjà de petits acteurs, quoi. Il y avait déjà quelque chose d'extrêmement signé. Et entre le livre et les parties pris très très forts de Claude, il y avait comme ça quelque chose qui se dessinait. Et c'était une écriture, voilà, à la fois très accompagnée, parce que très encadrée par ses univers forts et ses personnalités, et puis en même temps avec beaucoup beaucoup de liberté, quoi.
Quand vous dites très encadrée, là je comprends, parce que là il s'agit d'une adaptation d'un roman. Mais vous avez tout de suite précisé que c'est un film d'animation, comme si le genre vous imposait aussi une certaine forme d'écriture.
Je crois en tout cas que c'est pas tant dans la façon dont on écrit, mais c'est dans la façon dont à la fin, le film n'est pas remis en question absolument par la vie. Voilà, moi c'est l'endroit où l'animation c'est spécifique. C'est pas tant parce qu'on a le droit de faire ci ou ça, ou parce qu'on a toute la liberté, parce qu'on vous dit tu peux faire débouler 1000 éléphants. Voilà, ça va pas être comme si on devait vraiment tourner avec 1000 éléphants. C'est plutôt que il y a pas ce romantisme du tournage, il y a pas non plus l'irruption comme ça, oui, d'une vie qui viendrait tout bousculer, et donc en fait le film ressemble au film qui a été écrit. Il y a quelque chose de l'ordre de la minutie. C'est un travail d'obsessionnel quand même, le travail d'un mais y compris des animateurs. Voilà, chacun à son endroit. Et donc il y a quelque chose de l'ordre de la pensée du film qui émerge, parce qu'évidemment qu'on finit toujours par comprendre ce qu'on a fait une fois que c'est fait, mais où il y a quand même, dans la temporalité de la fabrication, dans le rapport à la pensée du film et aux couches de pensée comme ça qui s'impriment les unes après les autres, il est différent que pour un film de live, comme on dit, parce qu'il n'y a pas... Et donc c'est une très grande responsabilité, quoi. C'est pour ça que c'est des films très importants, les films d'animation. Et même quand on pense à Hollywood, ce qui se passe dans les films d'animation, c'est le seul endroit où il y a encore une pensée de gauche à Hollywood. C'est les films d'animation. Regardez comment ils pensaient Vice Versa. Regardez comment ils pensaient Zootopie. C'est des films. Les blockbusters américains sont globalement des films de droite, avec une pensée en tout cas extrêmement manichéenne du monde. Et regardez le soin qui est apporté, la plus grande intelligence scénarique à Hollywood aujourd'hui, elle est du côté de l'animation. Et parce qu'on fabrique quelque chose de bout en bout, avec des... Et c'est de la pensée, l'animation, quoi. Je sais pas, je peux pas vous l'exprimer autrement, mais ouais.
Est-ce que vous étiez toute seule pour écrire ce scénario, ou bien il fallait absolument que vous soyez entourée par cette équipe qui travaillait sur l'animation des personnages?
Non, c'était une écriture assez rapide et solitaire. Il y avait d'un côté, voilà, le livre, il y avait déjà une première épreuve qui avait été rendue par Claude et une équipe de scénaristes. Et du coup, moi, je suis arrivée un peu comme ça, en prenant la chose à la volée et en écrivant une première version seule, comme ça, que j'ai livrée à Claude et sur laquelle, après, on a échangé. Mais c'est pas une écriture de longue haleine, en prenant compte de mille conditions techniques. Hein. C'est le travail qui a été fait par les nombreux talents qui se sont succédés ensuite sur ce film.
Pour rebondir à votre analyse des films d'animation venus de Pixar ou d'Oubli, d'une manière générale, diriez-vous que Ma vie de courgette est un film de gauche?
Ah oui.
Alors comment résumeriez-vous ce film? Tiens, comment le présenter?
Comment résumer le film? Mais c'est peut-être par son histoire d'abord. C'est l'histoire d'un petit garçon qui est orphelin, qui devient orphelin, y compris un peu par sa faute, par accident, avec une forme de culpabilité en tout cas, qui le mène dans
Vous voyez bien qu'on n'ose même pas dire tout.
Mais parce qu'il faut réserver la surprise aussi. Mais qui se retrouve dans un orphelinat et qui va en fait apprendre à être heureux, entouré comme ça, dans ce lieu qui est plutôt, dans les fables, un lieu de souffrance, de tristesse, de mise au banc un peu. Voilà, ces petits marginaux vont s'aimer, s'entraider et en fait apprendre à être heureux, quoi. Donc et apprendre à grandir. Et c'est un film qui est très généreux.
Et c'est en ce sens qu'il est progressiste ou de gauche?
Non, mais je crois qu'il a des valeurs et puis ouais. Je crois surtout qu'il croit à l'intelligence des gens, voilà. Pour moi, c'est ça, hein, un film, hein, de gauche. C'est pas forcément un film qui est en train de prôner. C'est pas qu'il y a des idéologies. C'est qu'il croit à l'intelligence des gens. Et des spectateurs, des personnages. Et croire à l'intelligence des enfants, c'est absolument décisif.
Merci beaucoup d'être passé ce matin, Céline Sciamma. Demain, suite de notre série avec Christophe Nangaoli, Portrait de la France par 5 cinéastes contemporains. Demain, on parlera de Samuel Collardet et à travers ses films, de ce nouveau regard sur le monde du travail. Et en deuxième partie, je serai avec Houda Benyamina, autre événement de la quinzaine des réalisateurs cette année à Cannes.